Cette semaine dans le balado, on assiste à d'étranges phénomènes dans le désert et on marchandre notre corps contre une voiture. Rien de moins, bienvenue à mon ciné balado. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff.
Allô. Donc, c'est-tu marchandé pour quitter le désert, justement?
Même ouais, pas. Hein?
Mais... ben, quasiment. Il y a un problème de voiture dans le désert aussi.
Ben oui, tout à fait. Donc, c'est la thématique de la semaine.
Les chars.
Les chars.
C'est ce qui lie les deux films, mais c'est vraiment pas des films de chars.
Vraiment pas. D'ailleurs, le nouveau Wes Anderson prend l'affiche. Ouais. Donc, on sait que c'est un cinéaste qui a vraiment son fanbase très dévoué, mais c'est quand même un cinéaste, je dirais, qui polarise. Là, c'est... généralement, t'aimes ou t'aimes pas ces
ouais,
films.
Il ben, y a un style unique et très, très déterminé. Fait qu'on le sait dans quoi on s'embarque. Voilà.
Donc, on a hâte de vous parler de ça, ainsi que d'une comédie un peu vulgaire avec Jennifer Lawrence. Moi, je suis toujours bon public pour ce genre de films-là.
Ben, en plus, il me semble qu'il n'y a pas si longtemps encore, on disait il me semble qu'il n'y a plus des comédies au cinéma et blablabla. Puis là, il y a ça, il y a Joyride qui s'en vient. J'ai vu qu'il y en avait d'autres au mois d'août. Ben, il y a Strays entre autres qui sont tous un peu... Du 13 ans et plus, un peu vulgaire et tout. Fait que non, ça existe encore. C'est juste, c'est pas les projets qu'on annonce 8 mois d'avance. D'habitude, c'est pour ça que c'est dur de voir à long terme.
Tout à fait. Donc, avant d'attaquer les sorties de la semaine, un petit tour d'horizon de l'actualité. Moi, honnêtement, j'ai pas recueilli grand-chose.
Hey, j'ai deux nouvelles.
Hey,
c'est
ben,
fou.
Tu me bats. C'est une dernière fois.
J'ai commencé par un semi-erratum. Au début, je pensais que c'était un erratum. Finalement, en faisant mes recherches, j'étais pas tout à fait dans l'erreur.
Ouais.
C'est quand, la semaine dernière, je me suis laissé emporter puis qu'on parlait de Robin, quand t'as annoncé que Andy Muschietti allait faire le prochain Batman Beyond, Brave and the Bold, c'est ça, excuse.
Oui.
Puis... là, j'ai sorti, pourquoi Robin, t'sais, c'est un merle? Pourquoi il n'a pas l'air d'un merle? Puis là, on m'a corrigé. On m'a dit qu'en fait, l'origine de Robin, c'était plus de Robin Hood, en fait. Là. Mm-hmm. Fait qu'ils sont, il y a un petit look avec son petit bandeau, je sais pas trop. Là. Fait que les créateurs, ils aimaient le look médiéval là, de Robin des Bois, en fait.
Mm-hmm.
Fait que là, je me suis trompé, mais en lisant, bon, sûr, je lisais plus sur Wikipédia, là, mais quand même, ça recense beaucoup de sources, surtout ce genre de personnage-là. Là, la page en anglais est très, très dense sur ce personnage-là. Il y a d'autres sources puis d'autres altérations qui, eux, ça venait vraiment de l'oiseau, le American Robin, là, le merle d'Amérique. Fait que c'était pas tout vrai, pas tout faux. Et surtout, je pense qu'il parlait de celui de Frank Miller, entre autres. Puis quand Robin, ben on connaît plus Dick Grayson, mais à un moment donné, ça devient Tim Drake. Puis là, à un moment donné, lui, il devient Red Robin. Puis là, il y a vraiment un casque complet, un peu à la Batman. Puis là, il y a plus l'air, sa cape, elle fait plus aile d'oiseau et tout. Puis qu'éventuellement, il prend un look plus... aviaire, si on veut. Mais sinon, c'est ça, c'est plus Robin des Bois. Fait que mystère résolu. Ça a un peu expliqué l'espèce de bobette, l'époque des bobettes par-dessus les collants.
Comme je disais, l'époque des super-héros était beaucoup teintée aussi par les acrobates de cirque. Donc Superman aussi vient, son design vient de ça. Et la raison pourquoi on lui donnait des couleurs très vives à Robin, ben, c'était pour faire le contraste, évidemment, avec le
Batman
noir,
sombre.
Le Batman très sombre.
Ben oui, il l'avait créé, c'est ce qu'il disait, pour que les jeunes aient un point d'ancrage.
Ouais.
C'est comme moi dans l'histoire, je suis Robin, puis si j'avais un ami, non.
Oui, parce que quand même, le strip de Batman à ses débuts était un peu plus controversé, là, même que dans les premiers, mes premières aventures, il y avait des fusils, des armes à feu, il tuait des méchants, tout ça. Donc, c'était quand même. On était plus proche d'un autre personnage qui s'appelle The Shadow.
Mais j'ai oublié de regarder le fameux Brave and the Bold. C'est quoi le look de Robin là-dedans?
Oui, effectivement. Écoute,
ça doit pas être la cape jaune, là, puis les souliers de lutin, là, je sais pas.
Non, mais je pense qu'il y a encore sa cap, mais effectivement, là, il y a plus un costume un peu plus moderne, mais honnêtement, je dois confesser que je n'ai jamais lu cette série-là, même si elle a été vraiment très, très bien accueillie par la critique et les lecteurs. Ouais, c'est quoi ton autre nouvelle, vas-y?
Ben, la première, ils ont annoncé le casting des Belles-Sœurs.
Ben voilà, c'est vrai.
Hein? Fait que casting quand même de feu, qui va être réalisé par René Richard Cyr, qui c'est lui qui avait fait la version... comédie musicale qui a un franc succès au théâtre
vraiment.
Depuis 2010. Je ne sais pas si elle tourne encore, mais en tout cas, elle a tourné pendant plusieurs années. Fait que c'est la pièce de Michel Tremblay, finalement, mais une version
semi-musicale. Un peu,
c'est TVA Film et Cinémaginaire qui vont nous offrir ce film-là en juillet 2024, donc dans un an, mais ça va être quand même... serré parce que le tournage va avoir lieu cet automne, là, septembre-octobre. Fait que c'est un film qui n'a pas beaucoup de post-prod et d'effets numériques et tout. Là. Il y en a toujours un petit peu plus qu'on pense, mais je ne sais pas à quel point on est sur le green screen. Mais ce que je trouve le fun, c'est qu'ils ont fait comme le casting de toutes les comédiennes, là, c'est quand même majoritairement des femmes. Puis sans que l'une sache qui serait dedans, là, dans le fond, tout indépendamment. Puis là, ils ont filmé en les faisant se rencontrer une après l'autre. Fait qu'ils mettent la première dans une pièce, il y en a une deuxième qui arrive. Là, ah, là tout le monde capote de savoir c'est qui va jouer dans le film.
Un reveal.
Ouais, c'est ça. Fait qu'on voit leur propre réaction d'être super contente. C'est toutes des comédiennes qui se connaissent, c'est sûr. Des fois, ils ont joué ensemble dans des précédents projets. D'autres fois, non. Différentes générations. Mm-hmm. Tu sais, même si on vous les nomme, je vous invite quand même à l'écouter. Je trouve ça vraiment charmant. Là, ils ont... Tu le sens qu'elles disent « Hey, bon sang, ça va être le fun de faire ce film-là. » Geneviève Schmitt, Anne-Élisabeth Bossé, mais également Guylaine Tremblay, Pierrette Robitaille, Diane Lavallée, donc un peu plus âgée, mais actrice de grand talent. Valérie Blais, qu'on connaît surtout pour... qui s'est fait connaître dans « Tout sur moi », mais qui joue dans « 10 000 affaires » aussi.
Et la cornemuse.
Ah, bon, ça, je suis moins connaisseur de... Étais-tu maquillée en...
C'était le raton laveur, Raffi.
Ah, OK. Debbie Lynch-White, Véronique Ducaire, Ariane Moffat. Fait que Véronique Ducaire, Ariane Moffat, du côté chanson, ça va bien aller. Mm-hmm. Puis c'est Daniel Bélanger qui fait la musique, voilà.
Oui, qui avait composé la musique, la comédie musicale. Fait que je sais pas si ça va être un nouveau produit ou on va reprendre certains éléments de la pièce musicale.
D'après moi, ça va être juste une espèce d'adaptation. Donc, ouais. Enfin, surtout, tu sais, c'est ça. Quand on parle d'un roman ou d'une affaire comme ça, t'as pas le choix de couper et d'adapter, mais là... Tu le mets en mode cinématographique, mais ça doit être à peu près la même durée. Là. Je peux pas croire que la comédie musicale durait 3h25 avec deux entr'actes. Puis, tu sais, ça durait 1h30, 2h.
Ce qui pique ma curiosité, étant un fan de Révolution, ben c'est Tim White qui va faire la chorégraphie. Donc, mais
je sais pas c'est qui.
C'était un duo de frères et sœurs qui avait remporté la première édition de Révolution. Ils sont vraiment très charmants, très doués, aussi talentueux. Donc, j'imagine qu'il va y avoir des éléments de danse ou en tout cas de mouvement, assurément, dans le film. Fait que ça, quand j'ai vu ça juste dans la petite annonce, je vois, c'est intéressant. Donc, ça sera le gros film québécois de l'an prochain,
ouais,
assurément.
C'est ça, de juillet prochain. TVA Film qui frappe fort, là. Ils ont, cette année, on dirait, avec ils ont eu Farador, là, il y a Testament, le prochain... Denis Arcand, ils vont avoir ça l'été prochain. Ils ont d'autres tournages. Fait qu'ils sont vraiment, depuis quelques années, lancés dans le cinéma québécois, alors qu'il y avait, ça avait été plus tranquille là, dans les années 2010. Là, à moins que j'en oublie, je m'en excuse. Là, mais...
Ouais, mais non plus de mémoire. Maintenant, ils ont vraiment pris cette tangente de cinéma populaire grand public. Là.
Yeah. T'avais-tu autre chose?
Ça? Non, moi, c'était ma seule nouvelle que j'avais répertoriée.
Ben, j'ai vu ce matin, le tournage est complété pour un biopic sur Salvador Dali. Puis alors qu'il vient de sortir, ou à peu près, il y a un film sur Dali avec... Ouais. Bon sang, l'anglais...
Ben Kingsley,
mais qui finalement est à peu près pas sorti au cinéma, puis déjà en plateforme. Ouais, et tout. Mais on confirme que le tournage d'un genre de biopic, mais tourné par Quentin Dupieux.
Oh, OK. Quand même.
Monsieur Oiseau. Fait que ça va être une belle folie. Et ça s'appelle Dali, mais avec 6 A. Dali. Point d'exclamation. C'est pas pour rien qu'il y a 6 A. C'est qu'il va y avoir 6 personnages qui vont jouer... 6 comédiens qui vont jouer Dali. Fait qu'un petit peu à la manière de I'm Not There. Puis le scénario... Ben, pas le scénario, mais le synopsis très mince pour l'instant, c'est qu'on va avoir une journaliste jouée par Anaïs de Moustier qui va tenter à tout prix d'obtenir une interview de Dali.
OK.
À une certaine époque de sa vie. J'ai vu plusieurs noms pour les interprètes de Dali. Il y en a qui se recoupent, puis il y en a d'autres qui, à certaines places, disaient non, finalement, cette personne-là n'est pas confirmée. Des fois, oui, est confirmée. Fait que c'est pas clair. Il y a Jonathan Cohen qu'on a vu, il est très, très connu en France. Ici, on l'a vu dans le dernier Astérix, notamment. Gilles Lelouch, Pio Marmaille. Eux autres sont quand même confirmés qu'ils sont trois des incarnations. Puis les autres, il y a Édouard Baird, Didier Flamand, Pierre Niney puis Alain Chabat. Mais dans certaines places, ils les nommaient. D'autres, ils disaient non, finalement, Pierre Niney n'est pas là. Il y a certains sites de films qui leurs noms sont encore associés. Fait que mystère. Mais ça sort le 1er novembre en France.
OK, quand
même. En même temps que Dune 2. fait que nous autres, j'imagine que ça va aller plus au printemps, probablement, le temps que ça soit acquis et tout. Surtout que le dernier n'a pas eu énormément de succès, malheureusement, mais ça reste un nom très connu. Fait que peut-être que aussi le fait d'acheter les droits fonctionne bien pour les droits télé, la suite.
Ouais,
et tout.
Par son sujet aussi. C'est ça. Fait que, en tout cas, je suis bien curieux de voir ça. Donc, je pense que c'est un mariage de folie, d'univers assez singulier là, qui marche bien.
C'est le site de nouvelles de cinéma français que j'ai consulté. Il disait qu'il avait tourné aussi deux genre peintures vivantes. Un peu dans le désert, fait que je sais pas trop comment ils ont fait ça, de ces fameux tableaux iconiques qu'ils nommaient, là, mais je suis pas allé les voir. Puis je sais pas trop comment, là, en peinture vivante avec des horloges qui fondent, j'imagine. Je sais pas trop. Fait que ouais, c'est sûr que c'est un terrain de jeu intéressant pour Monsieur Dupieux.
Bon, ben moi j'ai menti, j'avais une autre nouvelle.
Ah, ok, tu voulais juste la garder pour la fin, absolument.
Ouais, ça était plus basse sur ma feuille. Ben, je pense que ça va te plaire parce qu'on est dans l'univers de Fast and Furious.
J'essaie qu'on n'en parle plus, là, mais.
Ben là, on n'a pas le choix. Donc, on a confirmé le titre du spin-off dont on avait parlé avec Dwayne Johnson.
Ok, sur Hobbs.
Sur Hobbs.
Ah non, c'est.
Oui, Hobbs.
Oui,
ça.
Luke Hobbs.
Oui, en plein ça. Donc, ça va être évidemment Fast Presents, Hobbs and Reyes. Alors, on confirme que Dante Reyes, le nouveau méchant par Momoa, sera dans le film L'Adversaire.
Ok, fait qu'ils vont se faire une genre de chasse à l'homme, mais qui va se passer avant. Puis là, il va avoir ça, puis après, avoir le deuxième va être tabarouette.
Ouais. En tout cas, on verra où ça se situe. Mais effectivement, on parlait que c'était, ça servait de pont un peu entre le 10 et le 11 par rapport au personnage de Dwayne Johnson. Mais là, si Reyes est là, nécessairement, ils se connaissent
10,
déjà.
Entre le 9 et 10 aussi, je pense, un petit peu. Mais en même temps...
Peut-être, on verra
bien. En même temps, le 10 a quand même présenté d'où est-ce qu'il sortait, là, un petit peu rapidement, là, mais quand même. Je sais pas. C'est sûr que, comme quand il avait fait le Hobbs et Shaw, ce qui avait d'intéressant, c'est qu'il y a de moins... On est plus modeste sur la galerie de personnages. Fait que si on est plus dans une histoire standard, là, en ce moment, c'est ça qu'on disait, il faut qu'ils se séparent en deux, en trois gangs parce qu'ils sont juste trop nombreux. Fait qu'il y a ça de bien. Mais le Hobbs et Shaw était peut-être un petit peu trop long. Là. Il durait aussi 2h15, 2h20. Il faudrait qu'il fasse de quoi de tête en...
1h45.
Ouais, parfait. C'est ça. Plus serré dans l'action, etc. Mm. Surtout que là, c'est plus... ben, il laisse toujours les voitures et tout, mais tu sais, le personnage de Hobbs, il conduit plus des gros camions puis des pick-up, là. Il est pas dans la course d'auto tant que ça. Puis Dante, on sait pas trop. Il a sûrement tous les skills, mais quoi que dans le dernier, il fait exploser les voitures de ses concurrents. Il est pas si bon que ça, hein?
C'est un tricheur.
Et voilà.
Alors, à suivre, on n'a pas de date de tournage encore d'annoncer, mais j'imagine que ça devrait se faire.
D'après moi, on n'a même pas de scénario, on a juste annoncé. Ils ont brainstormé, ils ont annoncé le titre. Puis là, ils s'assurent qu'à tous les mois, on en parle. Surtout que chaque fois qu'ils annoncent des nouvelles de même, le 4, ça fait, il commence son cinquième week-end, je pense. Il perd des écrans de plus en plus. Il n'est pas aussi fort au box-office que ce qu'il aurait espéré, c'est sûr. Fait qu'on fait tomber des nouvelles, puis on dit hey, oubliez pas, là, allez voir Rapid 10, s'il vous plaît. Là.
Donc, ben voilà, le tour pour les nouvelles. Allons-y avec les bandes annonces.
Ah, ça, il y en a pas mal.
Une semaine assez chargée, puis vraiment des films très intéressants. Débutons, moi, avec lui qui m'intrigue le plus. C'est Challengers de Luca Guadagnino.
Ouais, espèce de drame sportif romantique.
Un peu sexy hein, de ce qu'on peut voir d'abord.
Qui a l'air
annonce,
de s'étaler sur plusieurs années.
Fait que ça a enflammé les réseaux sociaux.
J'ai oublié de noter, c'est pas un scénario de lui par contre, c'est d'une autre personne. Ouais. On va suivre comme Zendaya, puis deux autres mecs, Josh O'Connor, Mike Feist, qui sont des joueurs de tennis qui se séduisent un peu à l'heure de tomber en couple avec un d'eux, mais il y a une blessure sportive, puis une espèce de triangle amoureux qui devient de la rivalité quelques années plus tard. Chronique de tennis, là, genre.
Ouais, c'est ça, mais de ce que je comprends, donc Zendaya, justement, c'est une star... de tennis, elle se blesse, elle va devenir entraîneur de un des deux mecs qui devrait former un couple et finalement, lui, je pense, va vraiment, sa carrière va partir et l'autre garçon, je pense que c'est parti un peu du threesome, va l'affronter lors d'un tournoi où ça sera quelqu'un qui tente de se qualifier, donc un challenger contre un joueur établi. Donc, en tout cas, moi, j'aime bien...
C'est surprenant de voir Guadagnino faire ça, faire un film de sport comme ça. Mais je suis pas contre du tout.
Je pense que ça va être probablement dans ses thématique relationnelle. Là. Il doit jouer dans ces zones-là. Je pense qu'il fait jamais quand même les films comme les autres. Il y a toujours une approche assez intéressante sur le plan humain. Fait que j'ai bien hâte de voir.
Y a-t-il une date? J'ai oublié de noter.
Oui, c'est 15 septembre maintenant. Ça devait sortir au mois d'août. Mais finalement, je pense que ça a été poussé parce qu'il va avoir sa première au Festival de Venise.
OK.
Où le réalisateur, je pense, bien la cote là-bas. Bones and All avait été présenté. D'ailleurs, il a gagné le prix de meilleure réalisation.
Ah, OK.
Puis Call Me By Your Name aussi, je pense que ça avait été comme le point de départ de ce film-là.
Fait qu'il y a son abonnement.
Oui, je pense que oui. En tout cas, moi, j'ai vraiment hâte de voir. Un, j'adore Zendaya. C'est le fun de voir dans un rôle comme ça. Puis, écoute, non, ça a l'air comme assez sexy, un peu tordu, je pense, par la bande-annonce.
Puis, je sais pas si t'as cette réponse-là. J'ai oublié. C'est qui distribue? C'était-tu un MGM?
Ouais, ou... c'est un MGM. Donc,
c'est ça. On sait jamais trop.
Est-ce qu'il va y avoir beaucoup d'écrans ou non? Ça va être.
Ouais, parce qu'il faut qu'il soit sous-distribué par quelqu'un d'autre. Là, ça peut être les Amazon, mais même Amazon re-sous-distribue par d'autres mondes. Fait que c'est assez flou là, pour le Québec, mais ça a l'air d'une grosse sortie. Fait que
ouais.
J'imagine que quelqu'un va se commettre à un moment donné. Il l'avait fait pour... c'était pas MGM, mais c'est Amazon Studios. Air n'était un qui avait redistribué par Warner, etc. Écoute, grosse sortie, peut-être... on attend ça. On sait pas quoi attendre de cette franchise-là. Kraven the Hunter... l'univers Spider-Man, c'est des méchants Spider-Man, un peu à la Venom, à la Morbius. Fait que Sony utilise les seuls droits qu'ils ont, c'est Spider-Man, mais ils peuvent pas faire des films juste de Spider-Man sans travailler avec Marvel. Fait qu'ils font genre leur propre shit. Fait qu'ils prennent des héros, des anti-héros, puis ils font l'air d'être méchants, mais pas aussi méchants qu'un autre méchant. Aaron Taylor Johnson, qui joue le rôle principal de cette espèce de fils de mafieux russe qui va recevoir du genre de goutte de sang de lion, puis devenir mi-homme, mi-humain, plus... pas physiquement, dans le sens qu'il ne pousse pas du poil comme un loup-garou, mais qui a juste des super pouvoirs de traquer les gens et tout. Ce que je trouve intéressant, Russell Crowe qui joue son père et que finalement, il y a des daddy issues, fait qu'il veut juste se venger de son père plus tard. Ariana DeBose, qu'on va voir là-dedans. Fait que c'est un blockbuster. Là, on signe des gens de talentueux, beaux et belles, puis on espère que ce soit pas trop un shit show. Mais le film a l'air assez violent. Je pense qu'on va être dans le R-rated, peut-être, là, à manger des oreilles puis du nez du monde. Là, puis de
moi, j'étais surpris un peu par la violence potentielle dans la bande-annonce, quand même, pour un film de super-héros qui, généralement, on essaie de ratisser plus large comme public. Fait que...
Ben, je pense que Sony essaie d'aller, on l'a vu un peu avec Morbius, ça a été un peu aussi un development hell, là, ce film-là. Fait qu'on essaie d'aller quand même dans quelque chose de plus sombre, de plus intense, plus fidèle au comic book. Mais souvent, le scénario n'est pas à la hauteur des ambitions, je trouve. Mais laissons-nous surprendre. C'est J.C. Chandor qui avait fait, entre autres, A Most Violent Year, qui était comme un excellent drame de mafieux. Il y a à peu près 10 ans déjà. Fait que lui aussi, surprenant de voir ça dans des grosses franchises comme ça, mais ça peut n'être que positif, j'imagine.
Donc, à découvrir en octobre pour les amateurs du genre qui ne sont pas tannés encore des films de super-héros.
Les amateurs du genre qui ne sont pas beaucoup à se bousculer aux portillons, c'est ainsi.
Sinon, écoute, double dose le 22 septembre, il y a Drive Away Dolls. Okay. De l'ancien duo des frères Coen, parce qu'Ethan et Joel, ça fait quelques années maintenant qu'ils ont décidé un peu de se séparer, de faire une pause professionnelle. Pas parce qu'ils sont en chicane, mais je pense qu'il y a juste une fatigue de travailler ensemble. Donc, ils avaient comme besoin de se renouveler un peu. Donc, Ethan Coen avait fait apparemment un documentaire sur Jerry Lee Lewis. Donc là, c'est vraiment sa première fiction qu'il a co-scénarisé avec sa compagne Trisha Cook. Et c'est une espèce de road movie très à la Coen.
Ouais, criminel funny, là.
Ouais, des personnages assez excentriques, beaucoup de dialogues. Ça se passe sur... l'histoire tourne autour de deux filles qui qui viennent à former un couple, puis finalement décident de partir en road trip. Et ils vont tomber sur des mafieux, une espèce de valise qui contient... probablement quelque chose d'important. Quand même, on le voit dans la bande-annonce, tant dans la mise en scène, dans les couleurs, là, on est dans un esthétisme assez léché que les Coen nous ont habitués. Au générique, Margaret Qualley, Geraldine Vinas, je vais essayer de lire comme il faut, Viswanathan et quand même Pedro Pascal, qui est maintenant de tous les films, ou presque.
Puis j'ai vu que Benny Goldstein aussi, je pense. Ouais, elle aussi. Qui est dans Booksmart, là, que ouais. J'aime bien.
Donc, vraiment, je pense que ça pourrait être un
même Matt
films,
Damon.
Ouais,
dedans,
Matt Damon
dans
un petit rôle.
Espèce de, d'assassin ou je sais pas trop. Là.
Fait que, très ouais. Curieux de voir ça.
Exact. Et ça, si tu. Parce que t'as dit le doublé, si tu Dumb Money.
Ouais, est... effectivement. Ouais.
Ça m'a surpris parce que je pensais pas que c'était un film qui arriverait si vite que ça. Mm-hmm. C'est avec Paul Dano, Shailene Woodley, il y a aussi Seth Rogen, Nick Offerman, Sebastian Stan, qui parle de la saga GameStop, des actions. Mm-hmm. En bourse là, ouais. Qui était parti en folie, puis que là, on va être un peu dans le shortage, puis toutes ces affaires-là. Je sais pas si ça va être aussi clair que, mettons, comment il s'appelle l'autre film sur. Quand c'était la crise immobilière là,
ouais,
qui avait
ouais,
été
oui,
faite. Ça, là.
Ouais, le nom m'échappe, juste pour faire.
Comment?
Non, juste pour faire par exprès.
Ah, pour faire par exprès, ouais, c'est ça. Tu crieras au cours du podcast si ça te revient. Là. Fait que déjà, parce que pourtant, c'était il y a à peu près un an et demi encore, on en parlait de GameStop, puis le film est déjà prêt. Fait que tant mieux. C'est Craig Gillespie qui est aux commandes. Sûr que son dernier film, je pense, c'était Cruella, mais un peu franchise Disney qui vont chercher des réalisateurs différents. C'est pas avec Cruella qu'il faut comparer, c'est plus peut-être quand il a fait I, Tonya,
mm-hmm,
et
fait.
Plus récemment, la télésérie Pam and Tommy. Qui avait entre autres Sebastian Stan, Seth Rogen puis Nick Offerman au casting. Ouais. Fait que je pense qu'il a ramené de ces chums-là. Fait que cette espèce de côté un peu ironique puis humour noir d'événements réels, finalement. Là, avec Tonya, c'était sur Tony Harding qui avait pété le genou de...
Jennifer Kerrigan.
Voilà, en patinage artistique. Ouais. C'était vraiment un super bon film. C'est super le fun. Super le fun, vraiment content que ça se soit passé et tout. Fait que, ouais, moi, bien curieux de voir ça. J'aime beaucoup Paul Dano aussi. Oui. Fait que, ouais,
non, on a un vibe sans nécessairement que ce soit pareil, mais qui fait penser à Blackberry aussi. Là, donc,
ouais, ouais, d'un peu d'imbécile heureux qui se ouais, retrouve dans ça. Des grosses gamiques. Puis
qui ont. De voir un peu les dessous de Wall Street et des grandes économies, c'est des entreprises. Il y a toujours quelque chose de fascinant à voir avec ça.
Le titre va revenir, mais il y avait Short dedans.
The Big Short?
Oui, je pensais ça, exactement.
Ouais, The Big Short.
Ouais. Mm. Voilà, on l'a eu. De Adam McKay, il me semble.
Oui,
c'est
ouais.
Ça. OK, hey, très fort, très fort. Voilà, puis dernier, lui, il n'y a pas de date de sortie pour l'instant. C'est un tout petit teaser d'à peu près 45 secondes. Des studios A24, prochain film de Sofia Coppola, ça s'appelle Priscilla. Fait que Elvis est à la mode alors qu'on a eu le film de Baz Luhrmann l'été dernier. Là, ça va être plus sur le côté de Priscilla Presley. Fait que basé sur ses mémoires. Ben,
ouais, ça...
Ses mémoires, es-tu
ouais.
Décédé? Je me souviens plus.
Non, mais.
Non, c'est ça. Sur... Ok, ben, en tout cas.
Sur sa biographie,
sa biographie,
ouais,
là,
sa
exactement.
Biographie, ouais. Qui date souvent... quand même de 85, fait que ça faisait un bouche
okay.
Que ça avait été écrit, ouais.
Fait que ça va avoir l'espèce de côté Sofia Coppola, romantique, un peu flou, je trouve, dans son grain qu'on retrouve ici. Elvis, qui est joué par Jacob Elordi, qui est connu surtout pour Euphoria.
Ouais.
Toi, écoutez ça un peu. Nate Jacobs.
Et Kissing Booth aussi,
voilà.
Qui était très populaire.
Et Priscilla, joué par Kaylee Spaney, qu'on n'a pas vu beaucoup à date. Elle a fait des plus petits rôles dans des gros films, mais souvent mm-hmm. Quand la personne était plus jeune, mettons, des choses comme ça. Mais elle va être dans le prochain Alien Romulus, ouais. Justement. Fait que c'est sûr que c'est une actrice à surveiller là, d'une vingtaine d'années.
Et là, ça a l'air déjà que le film fait un peu...
Jaser,
surtout de la part des héritiers de Presley, parce qu'il y a comme une chicane. Tu sais, Presley a toujours été dans le décor, elle a géré les ayants droit pendant plusieurs années.
Okay.
Mais là, suite au décès de Lisa Marie, il y a comme eu des tensions avec sa petite fille, Riley Keough. Puis,
c'est vrai, j'oublie toujours ça.
Moi, et donc, fait que c'est ça. Fait que là, ça a l'air que l'autre gang des Presley sont pas très heureux du film, alors que Priscilla, elle est très
là,
contente.
Je suis un peu mêlé, là. Lisa Marie, c'est leur fille?
Ouais.
OK. Puis, fait que leur fille est morte avant...
Ouais, ben décédée justement après les Golden Globes, quelques...
Ouais, c'est ça, mais je suis mêlé. Dans ma tête, je pensais que c'était comme la femme d'Elvis qui était décédée.
Non. Priscilla est toujours vivante.
Ah ouais, OK. Ouais. Ah, dommage. Désolé pour elle.
Fait que, mais... ouais, c'est ça. Alors, ben j'ai bien hâte de voir ça parce que On a tendance à l'oublier, mais ils ont quand même commencé à se côtoyer alors qu'elle avait 14-15 ans.
Voit qu'on le... C'est sûr qu'ils n'ont pas pris une actrice de 14 ans, mais on en discute un peu juste la petite bande-annonce. Là, dit genre, ouais, il n'y a pas du monde de ton âge qui t'intéresserait plus que...
Fait
que
c'est quand même intéressant le parallèle. À la même époque, tu avais Jerry Lee Lewis.
Puis lui, il avait comme déjà 25 ans, genre?
Ouais, ou... Presley était déjà dans le début vingtaine, mais au moins, il a attendu... de la marier une fois qu'elle était rendue majeure, ce que Jerry Lee Lewis n'a pas fait avec sa cousine.
Ah là là!
Mais voilà.
Toute une histoire. Je n'avais pas tout ça, mais on en a parlé à quelques reprises cette année. Puis je... Eh ben.
Donc, voilà, ça fait le tour un peu des bandes annonces. Alors, je pense des films vraiment intéressants à découvrir cet automne pour la plupart. On verra Priscilla, lui, peut-être va se positionner peut-être pour les Oscars en fin d'année ou quelque chose comme ça.
Ouais, ils ont juste dit bientôt. Puis tu sais, R24 a toujours une stratégie assez, assez unique là, de mise en marché. Là. Il se fie beaucoup au bassin puis à leur culte un peu. Fait qu'ils annoncent pas les choses tant d'avance d'habitude.
Alors, allons-y avec les films de la semaine. Débutons justement dans film d'auteur avec Asteroid City de Wes Anderson.
Ouais, c'est quand même une grosse production de films d'auteur, mais oui, c'est pas le gros blockbuster qui va parler autant à un jeune enfant qu'à une grand-mère. Écoutez, on va retrouver toute la distribution de Wes Anderson ici. Assez spécial, si vous avez vu la bande-annonce, on comprend qu'on est dans un climat désertique, entouré peut-être d'extraterrestres, où il y a eu un astéroïde qui est tombé. Mais il y a une mise en abîme, en fait. C'est plutôt qu'on est à New York, où un dramaturge puis un metteur en scène sont en train de préparer la production d'une pièce de théâtre, qui, elle, est un congrès d'astronautes en herbe qui est tenu en 1955 dans le désert de l'Arizona. Fait que on voit la préparation de la pièce, puis après, on voit la pièce, mais pas comme une pièce de théâtre. On la voit comme le film, comme les images que vous avez vues circuler. Ce qui va... on en reviendra dans les commentaires. Là. Mais bref, fait qu'on va avoir ce congrès d'astronautes en herbe qui visite ou souligne la foi qu'un astéroïde est tombé... a créé un cratère et est tombé à cet endroit-là. Mais peut-être qu'on aura droit à la visite d'extraterrestres et que ça viendra bouleverser ça et mettre la ville sous, pas embargo, mais comment on appelle ça?
Quarantaine.
Donc? Quarantaine, voilà, merci. Fait que c'est un peu ça.
Ouais.
Vas-y.
Donc, comme je vous le disais d'entrée de jeu, Wes Anderson est quand même un des cinéastes américains les plus intrigants, les plus originaux des vingtaines dernières années. Mais en même temps, c'est un réalisateur qui polarise parce que c'est pas tout le monde qui adhère nécessairement à son style cinématographique. Donc, si vous n'aimez pas les films de Wes Anderson, on tentera pas vous convaincre d'aller le voir parce que c'est pas lui qui va vous faire tomber en amour avec son univers, bien au contraire.
Je trouve qu'il est à son paroxysme ici de Wes Anderson.
C'est plus aride, mais...
Il est comme... Je me le disais quand on est sorti du visionnement aussi, j'étais là, ouais, je le trouvais un peu dense, mais en même temps, il s'écoute super bien. C'est juste qu'il est très ce qu'il est, là. Comme on dit, tous les clichés d'Anderson sont un peu là dans ses dialogues. Puis oui, il a l'air aride parce que dans sa pellicule, son traitement, tu vois qu'il a l'air de faire chaud, puis tout est saturé, pâlote et tout. Fait que c'est en ce sens-là qu'il est dense. Il est dense parce qu'il est très, très loin dans ce qu'il fait dans son esthétisme, mais c'est pas un film qui est... C'est pas un John le Carré, là. Je veux dire, c'est facile à comprendre quand même passe, là, c'est plus ça. Là.
On est quand même dans une certaine légèreté, même une certaine satire que moi j'ai beaucoup aimé, que ce ne serait-ce que de l'armée, des inventions de l'époque et tout ça, donc et de la famille.
Ouais. La perception des enfants aussi, un peu, là, comment les adultes perçoivent les enfants. Oui, c'est toujours des espèces d'enfants génies là, qu'il y a dans ces films.
C'est vrai, tout à fait. Donc, moi, j'ai quand même bien apprécié, mais ce n'est pas le film auquel je m'attendais, effectivement. Donc, il y a comme ce deuxième degré de pièces de théâtre ou tout ça là, qui est un peu déroutant. Puis je pense qu'à la limite, ça aurait pas été évacué puis ça aurait peut-être fait un meilleur film. Mais bon, c'est sa vision, c'est ce qu'il voulait faire.
Je crois que ça sert surtout à créer du contraste parce que quand il est dans la pièce de théâtre, là, le format d'écran devient resserré. On est plus carré.
En noir et blanc.
En noir et blanc, très, très doux. Alors que c'est ça, quand on tombe en couleur, là, paf, on tombe en scope, super large. Puis, là, comme dit, les couleurs blastées, là, les blancs sont éclatants et tout. Fait que je pense que c'est juste pour... C'est jouer à faire du cinéma, finalement,
oui,
tout
oui,
simplement. Tout à fait. Et ça y donne plus de comédiens, plus de caméos. On suit principalement Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, mais il y a Tom Hanks et Steve Carell qui sont là pour la première fois dans des projets de Anderson. Mais on retrouve Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Bryan Cranston, Edward Norton, Brody, Liv Schreiber, lui aussi, je pense qu'il avait déjà été, et une couple d'autres, sûrement, que j'ai oublié.
Maya Hawke, entre autres, de Stranger Things,
oui, c'est
que j'ai bien apprécié. Donc, oui, donc solide distribution. Moi, j'ai trouvé l'histoire quand même assez rigolote. Au niveau de l'esthétisme, écoute, c'est un des très beaux films que j'ai vu dans les dernières années, là, tant la direction artistique, direction photo.
C'est vrai que la DA aussi, on parle beaucoup de ces cadrages symétriques et tout, mais la conception des décors, comment c'est super beau, la petite ville et tout.
Vraiment, vraiment, qu'on construit dans le désert d'Espagne pour l'occasion. Fait que ça, je pense qu'il va sûrement recevoir quelques nominations aux
Oscars. Les séquences de train au début aussi, je trouvais super bien fait, que des fois, on dirait des vrais, des fois, je comprends que c'est des maquettes, là, un peu, mais...
Même dans le décor aussi, des fois, des plans, t'es pas sûr, c'est-tu vraiment réel, il y a des décors en arrière-plan, c'est pas
vraiment,
toujours
bien. Quasiment théâtre, justement, là, d'avoir juste un panneau de bois peinturé qui te donne une impression de profondeur. Le petit Roadrunner, le grand géocoucou, là, qui est comme en animation, mais volontairement un peu cheap. Là. Des fois, on le voit de plus proche, puis vraiment en pratiquement en stop motion ou une marionnette. D'autres fois, c'est du numérique, qualité d'animation discutable, mais...
C'est peut-être son petit trip Isle of Dogs qui revient.
Il doit trouver ça hilarant. C'est ça, comme on dit. Moi, ça m'a bien plu, mais c'est pas Grand Budapest Hotel qui est comme son film qui a été le plus largement populaire, souvent le mieux coté, qui a aussi fait le plus de frais au box-office, qui a attiré des masses, qui avait vraiment un côté facile à suivre. Tu sais, c'était une cavale, si on veut. Là, ici, c'est l'inverse. On est des gens qui sont coincés à un endroit qui va être mis en quarantaine. Fait qu'il y a moins cette espèce d'excitation haletante de genre, OK, ils s'en vont là, qu'est-ce qui va arriver? Qui vont découvrir? À un moment donné, les personnages, tu les as tous vus, puis il n'y en arrive plus des nouveaux, puis c'est juste ça, tu sais. Mais pour les fans, ne manquez pas ça.
Non, effectivement, c'est un film vraiment fait pour sa communauté. Je pense que, comme je dis, vous aimez Wes Anderson, vous devrez aimer Asteroid City. Et pour les autres, c'est peut-être pas le film à voir pour vous en fin de semaine.
Juste pour mentionner, il est disponible en 3 versions. Fait que, checkez ça en français, en anglais ou sous-titré français. Fait que, dépendamment de ce que votre cinéma a choisi d'offrir.
Puis, petit fun fact, tu parlais tout à l'heure qu'habituellement, Wes Anderson aime retravailler beaucoup avec ses comédiens, et un qui, de toutes ses productions, sauf son premier film, Bottle Rocket, c'est Bill Murray, qui est absent cette fois-ci, il devait jouer le rôle incarné par Steve Carell, finalement, mais Murray a attrapé la COVID juste avant le tournage. Alors, il n'a pas pu se présenter.
Steve Carell, le bouche-trou.
Oui, qui joue l'espèce de propriétaire du camping.
Très miteux. Très unique, avec des distributrices pour toutes. Là. C'est malade, ça.
Des martinis, puis même des lots
d'eau terrestre.
Donc, il y a beaucoup de petites pépites, honnêtement, dans le film.
Mais c'est vraiment lui qui a mis Schwartzman sur la map, justement, en le mettant dans c'était Bottle Rocket,
C'était-tu dans Rushmore?
Rushmore, c'est dans Rushmore qui était là, puis il y avait justement l'espèce de triangle amoureux avec Murray, puis l'enseignante.
Donc, Schwartzman, qui est le neveu et cousin de... neveu de Francis Ford Coppola et cousin de Sofia Coppola.
OK.
Et,
donc, petit cousin de Nick Cage ou c'est
on reste dans la même famille. Puis, il travaille aussi, Wes Anderson, beaucoup avec Roman Coppola, le fils de Francis aussi. Donc, une filiation-là avec cette famille pour Anderson quand même. Mais Schwartzman est toujours... je l'aime bien dans ses personnages excentriques.
On sait-tu Wes Anderson avec qui il est marié? Es-tu marié avec une comédienne ou quelqu'un?
J'ai pas tenu mes potins un jour.
Je savais pas si ça aurait pu... T'aurais pu m'en prendre certain avec Tilda Swinton. Je le sais pas, tout le monde est en couple avec qui, mais ça aurait été le genre à travailler tellement avec le même monde que si sa femme était dans le milieu du cinéma, j'imagine qu'il... Elle serait déjà productrice ou je sais pas quoi.
Ça se pourrait bien. Alors, allons dans un autre type de comédie plus grivoise cette fois-ci.
Oui.
No Hard Feelings de Gene Stupnitsky.
Oui, lui qui avait offert, entre autres, Good Boys il y a, 5 ans à peu près, 2017. Cette fois-ci, avec Jennifer Lawrence, Andrew Bart Feldman, qu'on a vu entre autres dans High School Musical. Et bon, c'est pas mal ça. Matthew Broderick et Laura Benanti, qui jouent les parents du jeune ado. Et on va suivre Jennifer Lawrence, qui est une début trentenaire paumée. On comprend qu'elle vit dans un endroit qui tranquillement se fait... assaillir par, je ne sais plus comment on appelle ça, là, mais en tout cas, les riches qui viennent acheter. Puis,
comme une ville côtière.
Ouais, dans l'État de New York. Mm-hmm. Puis que l'été, toutes les riches viennent là, font du bateau, fait que rachètent les propriétés de plus en plus. Fait que le coût de la vie devient extrêmement cher pour les simples travailleurs qui sont là-bas. Fait qu'elle a de la misère à payer les taxes de la maison qu'elle a héritée. Fait qu'elle a besoin d'une voiture et elle trouve une petite annonce qui... ses deux parents qui sont prêts à offrir une voiture à quelqu'un en échange de pas mal déniaiser leur fils, qui est super intelligent, mais juste avant de rentrer à Princeton, ils le trouvent un peu trop pogné. Ils ont peur qu'il se fasse manger la laine sur le dos. Fait qu'ils disent, il faudrait qu'il y ait des expériences sexuelles et autres, puis que ça le casse un peu, tu sais. Fait que, ben, elle accepte.
Dans les belles valeurs américaines.
Oui, oui, c'est ça. Puis, ben, tu vois, le père, c'est ça qu'il dit, ah, moi, avant de rentrer, c'est ça, là, j'ai rencontré quelqu'un, ça m'a ouvert sexuellement, puis là, ça m'a aidé à me faire une carapace puis à m'épanouir dans la vie. Fait que bon, puis ben, le deal, c'est qu'il faut pas que le jeune le sache que tout ça est arrangé. Ils veulent pas juste y payer. Ouais. C'est ça. Mais le personnage de Lauren, c'est pas une prostituée, c'est juste quelqu'un qui est comme une travailleuse du sexe. C'est juste quelqu'un qui a besoin d'argent puis qui a cette opportunité-là puis qui est assez décomplexé. Vous dites, ben oui, moi, je vais coucher avec quelqu'un pour avoir une auto, y a pas de problème. Là, t'sais. Ça va me sortir de la merde pour cet été. Fait que voilà, fait que oui, c'est une comédie. C'est... Jane Stupnitsky n'est pas la personne la plus connue de base, mais il a été scénariste sur The Office, aussi sur les films Bad Teacher, et il y a un Bad Teacher 2 en production. Fait qu'il a toujours été dans ce milieu de l'humour quand même, même si c'est juste, je pense, son troisième film ou deuxième film même qu'il réalise. Il a déjà réalisé deux épisodes de The Office, dont le fameux... T'as-tu écouté ça, toi?
Pas la version américaine, je dois
dire. C'est que le Michael Scott Paper Company, là, quand il part le bureau, puis que Pam s'en va chez eux, puis il est genre juste en peignoir dans son condo. On parlait de Steve Carell, justement, puis tout. Quand même un épisode mythique. Là, qui va chercher les meilleurs comme Ryan pour travailler avec lui. Fait que c'est lui qui a réalisé cet épisode-là. Mais tu sais, The Office, comme bien des séries... il y a plusieurs writers, il y a eu 7-8 saisons. À un moment donné, il y a souvent des scénaristes qui réalisaient certains des épisodes, des producteurs. Il y a des comédiens, comédiennes qui ont réalisé certains des épisodes pour se faire les dents. À un moment donné, c'est une machine quand même bien huilée, justement, là, ce genre de production comme des Brooklyn Nine-Nine, des choses comme ça, là, des séries phares. Bref, si on revient à No Hard Feelings, j'ai vraiment été surpris. C'est sûr que ce genre de produit-là, on ne sait jamais si ça va être quand même David Ange. Ce n'est pas ça, c'est très bien. Jennifer Lawrence est toujours comique, même si on l'a vu plus dans entre autres Hunger Games, des rôles plus dramatiques, Silver Linings ou Winter's Bone à l'époque. Mais et comme en entrevue, elle est toujours funny. Elle a le bon mot pour rire tout le temps, la bonne réplique.
Fait que oui, peut-être c'est cru aussi. Oui, je suis content d'avoir dans ce rôle-là parce qu'on est loin de son personnage de Katniss dans Hunger Games
Fait que ça peut laisser penser que c'est un personnage qui ressemble plus un peu dans son dialogue. Fait que oui, c'était vraiment un peu rafraîchissant, je dirais, de l'avoir là-dedans. Le kid est très bon. C'est pas un ado, tu sais, c'est pas un nerd tout pogné. C'est juste quelqu'un qui il a beaucoup de talent. Il est juste socialement un peu gêné, un peu introverti. Fait que ça donne droit à certains gags, mais pas les classiques de genre Revenge of the Nerds puis des affaires comme ça, tu sais.
Non, on n'est pas dans la facilité comme tel. Puis vraiment, les deux, ils ont un très bon rapport ensemble. Tu sais, la chimie passe bien. Puis, tu sais, quand même... tu sais, c'est pas aussi vulgaire que j'aurais pensé que ça aurait pu être. Mm-hmm. Même s'il y a quelques gags un peu crus. Mais en même temps, il y a... une belle humanité, une belle sensibilité aussi à travers ça dans le message. Là. Donc, je trouve que c'est une bonne comédie quand même, avec de bons sentiments par moment. Là. Tu sais, on est touché, puis...
ben c'est ça, sans révéler, évidemment, à un moment donné, tu vas te rendre compte que tu sais, peut-être chacun essaie de tirer quelque chose de cette relation-là, mais ils vont peut-être trouver autre chose que ce qu'ils cherchaient à avoir au départ. c'est drôle de voir que c'est ça. Andrew Bart Feldman a joué dans High School Musical et ben ça vient servir. Il y a un moment où il va chanter une chanson.
Et d'ailleurs, c'est lui qui avait incarné Evan Hansen sur Broadway aussi.
OK.
Puis je me rappelle quand on avait annoncé.
Ben, Evan Hansen,
film.
Mais à m'amener parce que c'était pas le. Le fameux gars, j'ai oublié son nom, qui était juste vraiment trop vieux. Puis quand ils ont fait le film, il y avait...
Effectivement, on poussait pour que ce soit lui, le comédien de Broadway. Mais finalement, les studios étaient allés chercher sur quelqu'un d'un peu plus vieux dans la trentaine.
Mais c'était comme l'original, je pense que c'est ça. Exact. Ouais. Mais là, il était 30 ans, puis il jouait un ado de 16. Hein, fait que...
Voilà. Donc, vraiment, une comédie très, très légère, estivale, là, Nord Feelings. Je pense que c'est très bien la job.
Ce que je me demandais, c'est... c'est pas une façon de c'est pas pour parler contre le film, c'est juste des fois il y a certains films qui vont devenir iconiques avec le temps. Il y a plusieurs facteurs à ça, il y a la qualité du film, mais il y a aussi comme le moment qui sort, l'espèce d'environnement, les sujets, est-ce qu'il va bien vieillir ou pas. Lui, il y a des regards sur sans être trop dans la gueule, mais tu sais, un peu justement, j'ai oublié comment ça s'appelle, la gentrification, c'est ça, l'utilisation des médias sociaux, des choses comme ça. Juste un petit peu, sans être trop au centre du film, fait que c'est bien correct. Mais, tu sais, on pense à Happy Gilmore, mettons, qui est comme peut-être le film phare de Adam Sandler, qu'on va se souvenir à jamais, des choses comme ça. Puis je me demandais un peu qu'est-ce que ça prend, tu sais, suite au visionnement, je me questionnais, est-ce que, tu sais, il y a certaines scènes, là, je sais pas si c'est spoilé, une scène de bataille nue, des coups de poing dans la gorge qui est quand même drôle, des affaires comme ça, que des scènes de cascade de voitures qui peuvent être des moments iconiques à leur façon, mais c'est sûr que ça prend... Il faut qu'il y ait des gens. Si personne n'écoute le film, ça ne sera pas iconique. Si plein de gens l'aient, est-ce que ce film-là a le matériel pour que dans 10 ans, on se souvienne de...
Je ne sais pas si... Il y a des moments aussi forts que tu parles de Happy Gilmore ou There's Something About Mary, qui ont vraiment marqué la culture populaire là, au moment de sa sortie. Là, ça devenait comme un...
Mais c'est aussi parce
que... Un talk of the town, tout le monde devait aller le voir parce que, oh my God, on ne croit pas ce qu'on nous montre. Là. Fait que, t'sais, mais t'sais, ça va pas aussi loin, je trouve.
Marie, un je ne sais quoi, il me semble que ça a fait genre 200 millions. Là.
Ouais. Oui, c'est ça.
C'était peut-être pas ce qu'ils s'attendaient, mais là, ici, je pense pas que le film va aller chercher ça. Je pense que s'ils font 100 millions, ça va être capoté. Là. C'est peut-être plus un film qui va faire 30-40. Là.
Ouais.
Fait qu'il n'y aura jamais autant de gens qui vont le voir. Déjà, il doit être rated R aux États-Unis, puis fait que, ça devient plus limitatif. Là. Fait que, mais je sais pas, peut-être pour une génération, ça, c'est le genre de film qui pourrait être pas iconique, mais un peu intemporel, là, qui pourrait durer un certain temps.
On verra bien.
Voilà.
Mais c'est vrai qu'il n'y en a pas eu dans les dernières années. Tu avais eu American Pie aussi au tournant des années 2000.
Ouais, c'est ça.
Après ça, tu avais eu Superbad aussi.
Ouais. Mais moi, j'ai full aimé.
Depuis 5, 6, 7, 8 ans. Là,
on parlait tantôt de Benny Goldstein. T'sais, moi, j'ai beaucoup aimé Booksmart, mais je le sais qu'il n'a pas cartonné au box-office.
Non, c'est assez niché.
Trop peu de gens l'ont vu pour qu'il devienne de quoi d'iconique. Mais il y avait certaines scènes comme ça quand les filles... prennent un Uber avec des bonnes nylons à la face pour pas se faire reconnaître. Puis c'est des affaires comme ça qui auraient pu marquer, mettons, mais pas tant. Il y a juste moi qui le réécoute une fois par année, là, mais c'est tout. Fait que bonne chance à Nord Feelings et Jed Stupnitsky, qui travaille sur Bad Teacher 2 aussi. Pourtant, Bad Teacher a eu un certain succès, mais c'est pas un film qu'on se rappellera à jamais. Mais c'était aussi un peu un contre-emploi pour Cameron Diaz d'être dans un rôle grivois comme un peu Jennifer Lawrence se retrouve ici. T'sais. Fait que, bref, un peu de 109 d'une certaine façon.
Sinon,
elle a vraiment une belle carrière, en fait, Lawrence.
Elle est très variée.
Ouais,
c'est
ça. Il y a eu des films moins bons que d'autres. Là. J'ai pas vu, mais Passenger, il paraît que c'est un petit peu moins intéressant. Mais autant un peu du indie. Moi, j'ai bien aimé Don't Look Up l'an dernier, de McKay aussi, justement.
Ouais, me semble, oui.
Puis, fait que, ouais, j'y souhaite tout le meilleur.
Donc, pour la famille, si vous avez vu Élémentaire, vous avez vu La Petite Sirène, vous cherchez un autre divertissement. Si jamais il y a des jours de pluie à venir, Le Tigre et l'Enfant de Brando Quilici.
Ouais, qu'on suit. C'est un orphelin qui va. Indien, qui va sauver un bébé tigre des griffes d'un braconnier, puis qui va s'enfuir avec la bête, avec l'animal, dans les hauteurs de l'Himalaya pour en fait. L'amener dans le nid du tigre, cette légende où un ancien je sais plus, monastère avait servi à abriter des tigres ou je sais pas trop quoi. Mais là, tout le monde va courir après lui, les contrebandiers, les gens de l'orphelinat, etc. Il va se faire des amis sur son passage, j'imagine. C'est toi qui l'as vu, Patrick.
Effectivement, ben oui. Écoute, moi, je dois avouer que j'avais quand même un certain intérêt à voir le film parce que j'aime bien les films qui ont des animaux. J'ai un bon public pour ça. Je les trouve tellement cute, surtout des félins. Donc, qu'on parle de Mia et le lion blanc, puis du même réalisateur. Je pense qu'il y avait
Il y a un mystère avec des loups, quelque chose comme ça.
Ouais, un lion, puis un loup qui était sorti.
Ouais. Ça, le loup et le lion.
Hein, c'était ça que j'avais bien aimé.
Faudrait que je suis allergique à tous les animaux, fait que j'ai vraiment moins.
Fait que j'étais le public désigné pour ça. Donc, fait qu'effectivement, le petit tigre qu'ils ont utilisé, il est vraiment cute. Et ça me fascine toujours quand même de pouvoir tourner des films avec des animaux comme ça. Qui en demeure des prédateurs là, quand même. D'habituer le comédien dès la naissance du tigre, à l'habituer et tout ça. Donc, ça me fascine toujours. Et c'est là, dans ce cas-ci, c'est très bien fait. Puisque je pense que j'ai plus apprécié du film, parce qu'on s'entend que c'est pas pour l'histoire comme telle. Là. Ça demeure des histoires assez classiques.
Mais pour des enfants qui n'en ont pas vu tant que ça, c'est bien correct. Pour l'adulte, que c'est pas ton premier rodéo, là, t'es genre bon.
Justement, donc être un jeune enfant, je pense qu'ils vont trouver leur compte. Puis même les adultes, puis j'allais justement dire, c'est pour le niveau de l'histoire, mais c'est surtout au niveau des images, puis du lieu où se déroule l'histoire. Donc, on est au Népal. Quand même, c'est assez intéressant. Puis on change quand même de trois endroits. Là. Donc on passe de la jungle à la ville, à l'Himalaya, les montagnes et tout ça. Donc, c'est assez rythmé aussi. Là. C'est un film de 90 minutes. Fait que ça perd pas trop de temps. Fait qu'il y a toujours quelque chose d'intéressant à voir. Et puis, peut-être un petit plus-value aussi, c'est au niveau du comédien quand même. Le jeune ado, Sonny Panoir, quand même un très bon comédien. Puis, en lisant un petit peu plus sur lui, finalement, j'avais lu que c'était le jeune comédien du film Lion qui incarnait le jeune Dave Patel, là, qui est vraiment un très bon film aussi là, pour ceux qui n'ont pas encore vu, là, qui est une histoire vraie, tout ça. Donc, bref.
Je me souviens, ça avait fait pleurer des gens.
C'est une histoire très touchante. Puis les deux comédiens étaient vraiment très bons. Donc, je suis content de le revoir, maintenant âgé de quelques années de plus. Alors, le Tigre et l'enfant, là, vous cherchez un bon petit divertissement pour vos jeunes. Là, ça fait vraiment, vraiment le boulot. Là.
Puis, probablement, en tout cas, je ne vais pas parler dans le dos, là, mais peut-être plus que La Petite Sirène, en fait, pour une certaine tranche d'âge, je dirais.
Oui. Tu sais, le Tigre et l'enfant, c'est vraiment accessible à un 6-7 ans. Ne va pas s'ennuyer. Contrairement avec La Petite Sirène, qui peut être un peu plus long,
deux heures,
comédie musicale en plus. Fait que c'est pas tout le monde qui aime ça non plus. Là. C'est bien correct. Donc, c'est ça. Puis c'est quand même intéressant là, pour les séquences d'Himalaya et tout ça. L'équipe a vraiment été tournée dans des endroits là, très reclus, très difficiles à se promener. Donc, ils étaient vraiment une équipe réduite pour aller filmer ces images-là qui nous montrent des coins là, vraiment qu'on n'a pas trop vu souvent.
C'est ça, Quilici est un réalisateur de documentaires animaliers, justement, ou de paysages. J'ai vu qu'il a travaillé avec National Geographic.
Oui, c'est ça. Toute son équipe d'art, des acteurs photo aussi, tout ça. Donc, et ça se voit, justement. Il y a vraiment une belle direction photo, une belle direction artistique aussi. Là. Fait que, visuellement, quand même, le film... des fois, c'est souvent des films à plus petit budget, on s'entend aussi. Mm-hmm. Des fois, ça se voit, mais là, vraiment pas, quand même.
Okay.
J'ai vraiment bien apprécié. Là, sans être un chef-d'œuvre du genre, on s'entend, là, mais... Vraiment un beau petit film à découvrir.
Puis, ben, comme on le dit à l'occasion, si notamment Le Tigre et l'Enfant vous intéresse, ne tardez pas parce qu'il est quand même en bataille contre toutes les Disney, les DreamWorks, les grosses affaires. Fait que c'est plus dur pour lui d'avoir des écrans, du temps d'écran. Fait qu'il ne sera pas à l'affiche tout l'été. Il faudrait vraiment qu'il jouisse tout de suite d'un bon succès en fin de semaine pour pouvoir que les cinémas fassent l'effort de le maintenir. Mais s'il ne se passe rien, on va passer au suivant, malheureusement. Ça m'a rappelé Lion, je t'écoutais, mais en même temps, j'ai essayé de me souvenir parce que là, les deux enfants se perdaient à l'époque.
Ouais.
C'était, il y avait Goudou puis Saru, je pense.
Hey, ça, je me souviens pas des noms.
Goudou. ça me donne envie de le revoir. La prochaine fois là, que j'aurai une émotion, puis tu sais, des fois, ça arrive pas si souvent, mais t'as besoin de pleurer, mais on dirait que ça arrive pas. Ça te prendrait le petit élément déclencheur. Là. J'écouterai Lion, ça va sûrement fonctionner. C'est tout pour cette semaine. J'ai regardé, il y a d'autres sorties, mais c'est super, super niché, là, des films très pointus et dans genre un seul ou deux écrans. Fait que je pense que si c'est le genre de produit qui vous intéresse dans des cinémas plus, plus spécialisés, ben, vous allez être à l'affût de ce qui vous est proposé là-bas. La semaine prochaine, je sais pas si tu as entendu parler d'Indiana Jones. Il y en a qui disent que c'est le cinquième, il y en a qui disent que c'est le quatrième film.
Ah, je les mauvaises langues.
Mais non, c'est le cinquième film. Mais on a fini notre...
mis à jour. On a réécouté
les quatre premiers. Presque tous ensemble.
Mm-hmm.
Fait que... Puis c'est vrai, en tout cas, on en reparlera, mais il faut quand même faire mea culpa, je trouve, au quatrième. Peut-être que les gens avaient des attentes trop grandes parce qu'il était revenu comme 20 ans après en faire, mais ce n'est pas si loin que ça des précédents volets. J'ai hâte de voir ici. À Cannes aussi, il y avait des critiques... un peu tiède, mais là, les critiques officielles commencent à sortir, puis c'est pas désastreux, là. On criera pas au chef-d'œuvre, mais je pense pas que c'est un accident de char, là. Je crois que ça va être très bien pour les fans d'aventure genre
et
de
Harrison Ford. Je pense que la conclusion devrait être satisfaisante.
Ouais, ils ont annoncé que c'était officiellement le dernier, là, j'imagine.
Harrison l'a dit.
Ouais, parce que là, il s'était blessé en tournage et tout, où il aurait fallu que tout de suite il y ait en production pour suivant. Là, ils ne peuvent pas attendre un autre 10 ans.
C'est clair.
Bref, la semaine prochaine pour Indiana Jones. D'ici là, contactez-nous comme d'habitude par courriel au balado à commercialmonciné.ca si j'ai encore dit des faussetés sur Robin ou un autre super-héros ou pour nous apprendre qui est la femme de Wes Anderson. Je vais aller voir tout de suite après l'enregistrement. Et on vous invite à vous procurer gratuitement le magazine Mon Ciné qui est disponible en version numérique ou physique dans le cinéma favori de la province. D'ailleurs, c'était là-dessus qu'il y avait on parlait d'Indiana Jones ou d'Harrison Ford dans celle-là, je me souviens plus. Tu avais écrit sur...
sur Indiana Jones.
Non, fait que c'est le temps de lire ça juste avant de découvrir le prochain film et le cadran de la destinée. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations.
Sur ça, on vous souhaite du bon cinéma, du bon popcorn, une bonne Saint-Jean également à ceux qui nous écoutent. Et puis, moi, je vais aller faire une petite recherche sur Craigslist. Il y a peut-être des trucs intéressants à lire.